politique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Nous sommes à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, pour débattre autour de l'Europe. L'Europe face au défi Trump. Nos invités, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, président de Hubert Védrine Conseil. Bonjour.
Bonjour.
Et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, son tout dernier ouvrage, Requiem pour le monde occidental, qui vient de paraître aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
Un requiem, c'est une prière ou un chant pour les morts dans la liturgie catholique. C'est en tout cas la définition qu'en donne le petit Robert. Requiem pour le monde occidental, est-ce que vous n'êtes pas, avec ce titre, Pascal Boniface, en train de plier face au pessimisme ambiant? D'où vient cette idée que nous en sommes là? Ce biais pessimiste nous conduit au fatalisme, à croire que tout effort pour améliorer quelque chose est une perte de temps. Et du fatalisme au radicalisme, le chemin n'est pas si long. Alors plutôt que requiem, est-ce qu'on n'aurait pas pu se satisfaire d'un constat que le monde de l'après-guerre est en train de mourir, que les États-Unis, comme l'Union européenne et comme d'ailleurs l'Amérique latine, donc l'Occident, sont plus simplement entrés dans une période d'incertitude, alors que par contraste, des pays comme la Chine ou la Russie semblent connaître davantage de stabilité et de cohérence?
Je ne pense pas que ce soit un livre pessimiste, c'est plutôt un livre qui plaide pour le volontarisme. Et le volontarisme, c'est de l'optimisme. Effectivement, je pense que la notion de monde occidental tel qu'on l'a vécu pendant toute la guerre froide est dépassée historiquement. Et donc, il faut reconnaître ce fait pour se projeter vers le futur. Parce que si on ne reconnaît pas, on est engoncé dans le passé. On a effectivement des paramètres qui restent figés dans l'histoire profonde de la guerre froide. Et ce monde est révolu. Et donc, si nous ne prenons pas conscience que nous sommes entrés dans un monde nouveau et que cette solidarité occidentale qui était acquise, qui ne devait pas être remise en question, qui faisait qu'on appartenait dans le même monde, qu'on avait les mêmes intérêts et que les autres étaient différents de nous, et qu'il y avait donc l'Ouest et le reste, eh bien il faut prendre conscience de cela justement pour se projeter vers le futur et ne pas rester engoncé, encalaminé dans un passé qui est révolu. Mais ce passé révolu oriente encore trop, à mon goût, les esprits et même les décisions.
Hubert Védrine.
On peut discuter sur le terme requiem, mais sur le fait que ce soit la fin d'un long cycle, on ne peut pas discuter, c'est une évidence. On peut ergoter sans fin sur la définition du terme occidental, ça remonte d'ailleurs à bien avant la configuration très particulière de l'après-guerre, quand la menace stalinienne a créé en quelque sorte cette alliance. Les vrais fondateurs de l'après-guerre, c'est Staline et Truman. C'est Staline par la menace, Truman par la réponse, en fait, mais ça remonte à bien avant. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Ça fait longtemps que je parle de la fin du monopole occidental dans l'histoire du monde. Après, c'est le travail des historiens, comprendre pourquoi quelques pays européens, totalement divisés d'ailleurs, ayant lutte entre eux, ont réussi à coloniser les trois quarts du monde. Pourquoi les trois quarts du monde ont été colonisables, c'est un autre sujet mystérieux pour les historiens, mais on pourrait dire c'est terminé, on est dans autre chose. Donc moi je suis sur la théorie fin du monopole, donc je suis très à l'aise, en tout cas avec la première partie de ce que décrit Pascal excellemment. Il y a des thèses plus radicales. Par exemple, le grand théoricien des relations internationales, le singapourien Kishore Mahbubani, il dit c'est la fin de la parenthèse. C'est pas la fin du monopole, c'est la fin de la parenthèse. Ça a duré 3-4 siècles, maintenant c'est fini, et l'Europe va de toute façon ne plus compter, et ça se passe en Asie, entre Asiatiques. Alors après il y a des disputes sans fin entre Asiatiques. Donc je ne suis pas sur la thèse de la fin de la parenthèse, parce que je pense que les Occidentaux en général, même si on a du mal à tenir l'Occident, gardent énormément de puissance, de capacité, enfin, sur tous les plans, mais quand même fin du monopole. Donc ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'adapte à une situation qui n'est pas du tout celle qu'on avait cru, qui est très difficile, puisque les Américains, après la fin de l'Union soviétique, avaient cru dominer l'ensemble, c'est l'époque où je parlais d'hyperpuissance, et que les Européens, de façon plus ingénue, avaient cru entrer dans le monde sympathique de la communauté internationale et que nos valeurs, etc., etc., allaient gouverner le monde. Mais dans les deux cas, c'est faux. C'est pas du tout ce qui se passe. Donc moi, je suis pas du tout gêné par le terme, et je trouve la partie analytique très très juste.
Alors fin du monopole occidental, fin de la parenthèse et nécessité pour l'Occident de s'adapter à une situation nouvelle. On voit pour l'Europe, Pascal Boniface, un double défi. D'abord effectivement cette fin du monopole occidental, et puis quelque chose de tout à fait nouveau dans sa relation avec les États-Unis.
Oui, effectivement, ce qui change, c'est que tout d'un coup, c'est le maître du monde qui ne veut plus du monde qui existe. C'est quand même le patron du monde monde occidental, Donald Trump, historiquement depuis Truman, prendre la tête du monde libre. Et là, tout d'un coup, celui qui a la tête de ce monde libre dit « ça m'intéresse plus, je ne veux plus dominer de la même manière qu'auparavant et je veux mettre fin à l'OTAN, je veux que les Européens se débrouillent eux-mêmes ». Et donc les Européens sont affolés, les Européens qui sont shootés à la dépendance stratégique à l'égard des États-Unis se disent « que se passe-t-il ? Mon Dieu, on va être abandonnés, que se passe-t-il ?» Et par rapport à un défi de cette ampleur, il devrait s'organiser, il devrait dire finalement ça peut être au contraire une formidable opportunité pour faire ce dont on parle depuis des décennies et qu'on ne fait jamais, avoir une autonomie stratégique européenne. Mais on voit que, y compris aux États-Unis, Trump dit une chose, mais que l'administration, le Pentagone, le Congrès dit autre chose. Et alors que Trump veut mettre fin à la politique d'hégémonie libérale qui existe aux États-Unis depuis la fin de la guerre froide, Trump et tout l'appareil sécuritaire américain et tous les experts américains disent il faut continuer, Trump est une menace par rapport à cela. Et donc là, il y a effectivement un autre type de parenthèse par rapport à la parenthèse que Hubert Védrine évoquait. C'est une parenthèse pour l'Europe de dire est-ce qu'il n'est pas temps de s'auto-organiser et de ne pas rester dépendant. Surtout que les États-Unis et là et l'appareil sécuritaire américain et l'OTAN grossissent, à mon sens, une menace russe qui n'existe pas au sens où ils le disent, pour justifier le maintien d'une dépendance. Alors on pouvait accepter, lorsqu'on avait vraiment besoin de la protection américaine par rapport à l'ogre soviétique, on pouvait accepter une certaine dépendance, y compris politique et économique, à l'égard des États-Unis, parce qu'il en allait de notre sécurité. Mais aujourd'hui, on a ce paradoxe d'un président américain qui exige, d'autre part, un plus grand respect, qui a une sorte d'impérialisme à notre égard beaucoup plus fort, par exemple en voulant empêcher les sociétés françaises et européennes de commercer avec l'Iran, alors qu'on n'a plus besoin de sa protection. Donc est-ce qu'il est normal d'être toujours obéissant et de devoir suivre au doigt et à l'œil les États-Unis au nom d'une alliance qui est une notion dépassée par rapport à une menace qui est elle-même dépassée?
Alors Pascal Boniface parle de dépendance des Européens vis-à-vis des États-Unis. Hubert Védrine, les Européens ont presque toujours été face à l'Amérique timides et d'une certaine manière divisés.
Non, ils n'ont pas du tout été divisés quand ils ont demandé la protection américaine. Alors, faut remonter avant, mais si on reprend à 45, avant, les Européens sont divisés parce qu'ils se battent entre eux et que c'est les batailles des Européens entre eux qui déclenchent les guerres mondiales. Et au bout d'un moment, l'obligation pour les États-Unis, dépassant leur réflexe isolationniste d'avant, d'intervenir quand même. Mais depuis l'après-guerre, non. Ce sont les Européens qui ont supplié les États-Unis, les Européens de l'Ouest. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens sont repartis chez eux. Ils n'étaient pas du tout dévorés par l'impérialisme qu'on lit dans les textes de propagande. Ils sont repartis. Et c'est face à la menace soviétique que les Européens, la France en tête, à l'époque, les ont suppliés de revenir, de faire une alliance. Ce que les Américains ne voulaient pas du tout. Ils n'ont jamais fait d'alliance. Ils ne se sont pas engagés. D'ailleurs, Washington, dans le fameux testament, disait « ne vous mêlez jamais des conflits entre Européens ». Finalement, à cause de la menace stalinienne, Truman a arbitré, a imposé au Sénat qui n'en voulait pas l'alliance avec l'article 5. Ça n'a pas suffi puisqu'il y a eu la guerre de Corée. Donc les Européens ont dit, mais il y a une alliance, mais si on est attaqué maintenant, les Américains, ils sont loin, on va se faire avoir en 3 minutes. Donc les Américains ont accepté d'aller au-delà. Et on a créé l'organisation du traité, le haut de l'OTAN, c'est ça. Les Américains ont dit, écoutez, on revient, mais vous nous avez engagés 2 fois dans des guerres mondiales, ça suffit comme ça. Donc on contrôle tout, ce qui rend service à tout le monde, parce qu'il n'y avait aucun Européen à l'époque capable d'opposer une force militaire quelconque vis-à-vis de quelque menace que ce soit. Donc on a le système de 49. On n'en est fondamentalement pas sorti. On n'en est pas sorti. Il y a des centaines de colloques sur la défense européenne, l'Europe de la défense, essentiellement des colloques français, n'ont pas fait bouger les choses d'un millimètre. Il y a des tas de procédures au niveau européen, il y a des titres, il y a la PESC, il y a des tas de choses, etc. Mais c'est des hamsters qui tournent dans leur roue, ça n'a aucune conséquence sur rien. Fondamentalement, et c'est le problème dans lequel on va être et que Pascal a déjà tout de suite abordé, c'est qu'est-ce que ça signifierait si au-delà de l'analyse historiquement juste, Trump allait par exemple au bout de son mouvement. Une partie de la presse américaine dit « mais il veut vraiment aller au bout de son mouvement sur l'OTAN ». Le système américain n'y croit pas, parce que c'est aussi pour les États-Unis un élément quand même d'influence extraordinaire, et d'un point de vue américain, ça serait complètement absurde, de leur point de vue, hein, de se priver de ce relais. Mais si c'était vrai, si Trump n'est pas simplement brutal, unilatéraliste, entre autres qualités variées qu'il a, mais réellement isolationniste, qu'est-ce que ça produirait chez nous? Et donc, il n'y a pas la division dont vous parlez.
Je pense un peu au général de Gaulle, Hubert Védrine.
Le général de Gaulle, c'est quand? Charles de Gaulle, d'abord, au début, il ne voulait pas sortir de l'Alliance. Il a fait le mémorandum des 58. Il est finalement sorti en 66. S'il avait eu Nixon et Kissinger en face de lui, ils auraient eu un accord pour changer l'Alliance. Il n'aurait pas eu à sortir. Il est finalement sorti en 66. Et après, on a vécu sur le gaullisme, puis le gaulo-mitterrandisme, etc. Mais tout ça, c'est un autre monde. Aujourd'hui, en réalité, si vous prenez les Européens face au phénomène, que décrit très bien Pascal, ils sont terrorisés par l'idée d'un retrait américain vrai. Terrorisés. Donc c'est ça qu'il faut qu'on creuse, à mon avis. Est-ce que ça peut produire autre chose en Europe aujourd'hui que cette espèce de tétanisation par la trouille ? À quoi ça conduit ? S'ils disent vraiment maintenant, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Madame Merkel a dit une chose importante en 13 ans, qui est l'an dernier, après avoir vu Trump, et quand elle a dit c'est épouvantable, on ne peut plus vraiment compter sur eux, donc il faut s'organiser mieux entre nous. C'est important, c'est la première fois qu'un chancelier allemand disait ça depuis l'après-guerre. Ça n'a rien produit. Donc je pense que là où on peut faire avancer le Schmilblick, ensemble peut-être, c'est de voir qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'en Europe, l'idée de s'organiser mieux face à cette hypothèse progresse. C'est pas sûr, hein. On peut avoir le chaos, on peut avoir un vaste mouvement neutraliste, hein. Neutraliste pacifiste, on peut avoir un désordre absolu entre Européens. Bon, faire sortir de ça l'hypothèse que tu espères et que tu esquisses, comme moi bien sûr depuis longtemps, dans ta deuxième partie, c'est pas jouer d'avance.
Alors s'organiser mieux, pardonnez-moi, s'organiser mieux pour les Européens, qu'est-ce que cela signifie, Pascal Boniface ?
Ben, simplement sortir de la dépendance, c'est-à-dire dire qu'on a une autonomie et qu'on n'a pas à suivre parce qu'on a peur d'être lâché la politique américaine, qu'il s'agisse de la politique à la guerre de Moscou ou dans d'autres secteurs. On a là un président américain qui veut à la fois se retirer et nous imposer ses desiderata de façon beaucoup plus forte que ses prédécesseurs. Jamais dans l'histoire, il y a eu un président américain qui a voulu autant imposer sa volonté. Même à l'époque de la guerre froide, le président Reagan ne voulait pas qu'il y ait le gazoduc qui parte de Russie. Les Européens, de l'Union soviétique plutôt d'ailleurs, les Européens ont résisté. Et là, on a un président qui a encore plus d'exigences. Donc il faut effectivement faire corps. Alors c'est difficile, pourquoi ? Parce que la dépendance qui n'est plus nécessaire aujourd'hui a créé des habitudes. La dépendance stratégique, c'est toujours difficile de sortir d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Et donc les Européens sont depuis 49 effectivement habitués à une dépendance à l'égard des États-Unis, dans un premier temps qui était indispensable, parce que l'Union soviétique était réellement menaçante et que l'Europe était incapable de s'organiser. Dans un deuxième temps qui était utile mais moins indispensable parce que l'Europe avait plus de moyens d'exister et qui maintenant est inutile puisque en fait on peut se demander si l'OTAN est une protection ou au contraire un facteur d'aggravation des tensions en Europe. François Mitterrand s'était opposé à l'élargissement de l'OTAN. Georges Kennan, qui était le maître à penser de l'endiguement, a dit que c'était la plus grave erreur, une des plus graves erreurs stratégiques qu'ont fait les États-Unis. Effectivement, l'élargissement de l'OTAN est venu faire peur à la Russie, qui voit ça plutôt comme une période d'encerclement. L'OTAN dit on est une alliance défensive, donc il n'y a rien à craindre. Mais si vous avez quelqu'un qui est à 10 mètres de vous et qu'il se rapproche de vous, qu'il vient en face, vous n'allez pas dire il est sur la défensive. Vous allez dire que c'est plutôt une tendance agressive. Et c'est ce qu'on fait, l'OTAN. Mais l'OTAN a besoin d'avoir une menace russe, parce que s'il n'y a pas de menace russe, eh ben l'OTAN, on plie boutique, on défait tout cela, et il y a des positions intéressantes qui n'existent plus. Donc l'OTAN est utile, un, pour ceux qui y travaillent, etc., et deux, pour les États-Unis, parce que c'est une façon d'être une puissance européenne et de diriger. On le voit pour ceux qui sont persuadés que la Russie peut envoyer ses chars pour les envahir, eh bien, dès que les États-Unis grondent un peu, ils sont au garde-à-vous.
Alors l'OTAN est l'appareil militaro-industriel américain, on l'a bien compris.
Qui n'a jamais été aussi fort parce que en fait Trump veut à la fois s'attaquer à lui et le conforter. Il a voulu s'attaquer à lui en mettant fin à la politique d'hégémonie libérale, en ayant une intuition qui n'est pas idiote, dire quel est le plus grand défi stratégique actuel et de demain pour les États-Unis. C'est pas la Russie, c'est la Chine. Et par exemple, quelqu'un qui n'est pas tellement
favorable. C'est déjà Obama. Hein.
Voilà. Mais et donc, est-ce qu'il est nécessaire de pousser la Russie dans les bras de la Chine ? Et même Obama y a contribué, puisque Obama, lorsqu'il arrivait au pouvoir, avait dit qu'il allait mettre fin au système de défense antimissile, qui est un chiffon rouge pour les Russes, en disant que ce système était basé sur des technologies non prouvées, avec un financement inexistant et par rapport à une menace qui n'existait pas plus. Mais il a cédé. Obama a cédé au complexe militaro-industriel américain, pour qui ce système de défense antimissile est vraiment le cœur, quelque chose de très important. Donc en fait, on vient provoquer les Russes pour ensuite se plaindre qu'ils sont crispés. et pour justifier l'élargissement de l'OTAN et l'augmentation des dépenses militaires à l'égard de la Russie.
Hubert Védrine.
Je ne suis pas en désaccord avec ce que vient de dire Pascal, et il y aurait beaucoup à dire sur les occasions manquées dans les relations entre l'Europe, les États-Unis et d'autre part la Russie, d'après l'URSS, notamment pendant les deux premiers mandats de Poutine. Après, c'est un peu plus compliqué, mais en partie de notre fait, en réalité. Donc, il y aurait des choses à dire. Il faudrait reprendre le débat, parce que ceux qui sont attachés viscéralement à l'OTAN aujourd'hui, encore plus que le complexe militaro-industriel qui n'a pas disparu, ce sont les Européens. Donc là, on retombe quand même, c'est un problème très compliqué pour nous.
Particulièrement les Européens du centre et...
Non. Tout le monde. L'Allemagne, elle a eu 250 occasions depuis 20 ans de dire « oui, on va avancer avec l'Europe dans une Europe de la défense en dehors des déclarations creuses hein. ». Non, faut pas croire que c'est que les Polonais. C'est pas que le complexe aux États-Unis. Donc c'est très compliqué dans le travail que nous avons à faire pour déterminer les chemins pour avancer. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est que le livre de Pascal est centré sur la question américaine. C'est tout à fait logique, puisque les Américains ont contrôlé le monde, en tout cas le monde occidental, et au-delà pendant longtemps. Mais en termes de dépendance, tu parles de dépendance, hein, les Européens, il n'y a pas que ça. On est trop dépendant des États-Unis. C'est pas tellement qu'ils ont une volonté plus grande, c'est que dans l'économie mondialisée, ce qui a pas mal d'avantages, financiarisée, beaucoup de risques, dollarisée, numérisée, les États-Unis peuvent utiliser leur scandaleuse politique d'unilatéralisme et de sanctions et contrôler beaucoup plus le système mondial qu'il y a 10 ou 20 ans. C'est même pas une question de volonté. C'est qu'ils arrivent à mettre la main, vous voyez, toutes les politiques de sanctions par rapport à des pays ou des entreprises qui les gênent, etc. Donc, il y a les États-Unis. Mais Poutine, encore une fois, je suis pour une politique plus réaliste par rapport à la Russie. Mais c'est pas vrai que Poutine ne pose aucun problème de voisinage. On a certainement eu tort dans la gesticulation sur l'élargissement à l'Ukraine en particulier, mais il faudrait reprendre les choses sur une base réaliste, avec des compromis de part et d'autre, et on ne peut pas dire que les Russes, notamment en matière cybernétique, ne cherchent pas à trouver les failles du système. On peut me dire que les Américains ont fait 1000 fois plus efficacement depuis des dizaines d'années. Il n'empêche que, et pour une grosse moitié des Européens, c'est un problème qu'on ne peut pas escamoter. Mais il n'y a pas que ça. La Chine, même avant le gigantesque projet Route de la Soie, la Chine organisait des sommets avec certains Européens, membres de l'Union Européenne, mais qui ont besoin de l'argent chinois, et plusieurs pays candidats que l'Europe ne peut pas accepter, puisque aucun traité d'élargissement serait ratifié nulle part en ce moment en Europe. Donc il y a une stratégie chinoise qui ne divise pas l'Europe. Elle utilise les divisions qui existent déjà. Il n'y a pas que ça. Il y a Erdogan qui prétend dicter les endroits où on peut faire des meetings pour son parti en Europe ou pas, ou les imposer quand les gouvernements ne veulent pas. Il y a évidemment la politique de Netanyahou qui a réussi à neutraliser à peu près toute expression européenne en matière de Proche-Orient. Il y a évidemment le financement wahhabite pendant 30 ans, la pire forme, la plus régressive, la plus dangereuse de l'islam à peu près partout dans le monde où il y a des musulmans, y compris en Europe. Alors le projet des islamistes en tant que tel, c'est encore autre chose. Il y a évidemment les mafias, qu'il ne faut pas oublier. Il y a les entreprises géantes genre GAFA ou les équivalents chinois. Il y a l'ensemble des participants à l'économie de la traite qui s'est reconstituée en Afrique et qui gagne plus d'argent que la drogue. Tous ces gens-là ont un point commun, c'est que l'Europe, c'est un ventre mou pour eux. C'est un supermarché. On prend ce qu'on veut dedans et de toute façon, on se fiche complètement des dispositifs européens. On sait très bien comment les contourner, etc. Donc il y a Trump en tête et ça justifie bien un livre comme celui-ci. Mais il y a tout l'ensemble. Donc si on sort du système mondial qui était un système de dépendance en ce qui nous concerne par rapport à ça, lié à l'histoire de la guerre froide, on est dans quoi? Et quand tu dis réduire la dépendance, je suis archi d'accord. Il faut des feuilles de route pour réduire la dépendance sur chacun des points, en fait. Comment on va faire? Avec quels alliés? Ça passe pas que par la dépendance par rapport aux États-Unis qu'on arriverait à construire si les Européens étaient capables de s'organiser pour se défendre ensemble à un niveau suffisant. Et puis d'autre part, pour reconstruire des systèmes financiers genre SWIFT qui soient capables d'échapper aux chasseurs de primes américains, etc., etc. Donc je ne contredis pas, j'élargis l'interrogation et je regrette de la rendre encore plus difficile en disant
et
ça.
Et je vous propose de poursuivre dans la deuxième partie de l'émission. On a bien compris en tout cas réduire la dépendance avec deux questions. Comment faire et avec qui? Géopolitique, nous retrouvons nos invités Hubert Védrine et Pascal Boniface après le journal. À tout.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous sommes à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, pour débattre autour de l'Europe, l'Europe face aux défis Trump. Nous retrouvons nos invités, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, président de Hubert Védrine Conseil, et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, son tout dernier ouvrage, Requiem pour le monde occidental, qui vient de paraître aux éditions Erol. Nous avons terminé la première partie de l'émission avec Hubert Védrine, qui, de même que Pascal Boniface, était d'accord sur la nécessité pour l'Europe de réduire sa dépendance, en particulier vis-à-vis des États-Unis. La question qui se posait, c'était comment faire et avec qui. On peut juste rappeler pour nos auditeurs que l'Europe, c'est moins de 7% de la population mondiale et moins de 22% de la richesse mondiale. Ça replace les données avec quelques chiffres.
50% des prestations sociales mondiales. Ça montre un poids aussi.
C'est dire aussi les déséquilibres et les incertitudes. Alors, réduire la dépendance, comment faire et avec qui?
Bah, tout d'abord avec
Pascal
l'Allemagne.
Boniface.
Je serais moins pessimiste qu'Hubert Védrine sur la capacité de l'Allemagne de rebondir. L'Allemagne est divisée. C'est vrai que, bon, historiquement, l'Allemagne doit sa protection depuis le blocus de Berlin aux États-Unis. Et même lorsque De Gaulle proposa à Adenauer d'aller un peu plus loin, le Congrès allemand bloquait parce que il disait non, on a besoin de la protection américaine. Après, la réunification, c'est un peu différent. On a vu quand même que l'Allemagne s'est opposée avec la France à la guerre d'Irak. En 99, Schröder s'est opposé au système de défense antimissile en disant que c'est un système inutile, voire même dangereux. Donc l'Allemagne est capable de réagir. Là, en fait, l'Allemagne est divisée. Pourquoi ? Les militaires allemands, ils sont biberonnés à l'OTAN. Pour un militaire allemand, l'armée allemande, ça ne sert pas à grand-chose. Et par contre, c'est à l'OTAN qu'il y a les grades intéressants, les champs de manœuvre intéressants, etc. Donc les militaires allemands sont complètement otanisés. Le fait de quitter l'OTAN, c'est demander à quelqu'un vraiment de sortir du cocon, etc. C'est impossible pour un militaire allemand de penser comme ça. Les milieux académiques et civils sont plus disponibles. Ils sont horrifiés de ce que dit Trump. Ils ont aussi quand même besoin d'affirmer la puissance allemande. Mais la grande crainte allemande pour l'instant, c'est de dire, attention, si on s'oppose aux États-Unis, que va-t-il se passer si le marché américain se ferme et qu'on ne peut plus vendre nos Mercedes aux États-Unis? C'est ça la grande crainte allemande. Mais sinon, les Allemands, on sent quand même un peu, justement, ils peuvent bouger, et c'est le travail le plus important que la France a à faire, c'est d'entraîner l'Allemagne avec elle. Alors, bien sûr, c'est une tâche relativement importante. Et en fait, pendant très longtemps, la France a eu peur de la puissance allemande. Maintenant, on doit l'espérer. Parce que c'est une Allemagne qui soit un peu plus puissante, qui pourra s'affranchir des règles psychologiques et politiques de la dépendance culturelle et historique à l'égard des États-Unis.
La France qui, Hubert Védrine, se retrouve particulièrement fragilisée depuis plusieurs semaines. Et il est vrai aussi que l'image de notre pays dans le monde c'est d'une certaine manière détérioré. Est-ce que tout cela donne moins de poids, finalement, au président Macron, dans tout ce chantier que vous évoquez, l'un et l'autre? On sent que, voilà, c'est un coup sur la tête.
Je vais revenir au sujet allemand dont parle Pascal, mais je veux bien dire un mot sur ce que vous dites, c'est conjoncturel, ça. Parce qu'en fait, dans à peu près toutes les sociétés mondiales aujourd'hui, les dirigeants savent qu'ils sont à la merci, dans les sociétés ultra-informées, ultra connectés, dans lesquels les gens, notamment dans les démocraties, mais même ailleurs, n'acceptent pas de confier longtemps leur sort à qui que ce soit. Et ils ont des moyens d'expression gigantesques qu'ils n'avaient pas avant. Donc même dans les pays où traditionnellement les gens ricanent quand il y a des problèmes en France, ils se sentent pas tout à fait à l'aise en fait. Ils trouvent que la situation en France est disproportionnée, caricaturale, tout ce qu'on veut, mais c'est pas comme s'il y avait des problèmes brusquement en France, dans un monde qui marcherait très bien, avec une démocratie représentative, super. C'est pas du tout ça. Donc on verra par la suite. Je voudrais revenir à la question allemande, parce que Pascal a raison de recommencer par là, en disant qu'est-ce qu'on fait, avec qui, c'est la question que vous posiez. Je pense pas être pessimiste, je pense être très expérimenté sur la question allemande. Ça veut pas dire que ça va pas bouger, mais il faut bien mesurer quand même les choses. Hein. Tu as parlé de Schröder. Si Schröder était resté chancelier, je pense que ça serait très différent. Et là-dessus, il y a un bilan qui a jamais été fait, parce qu'il y a une sorte de révérence automatique par rapport à Mme Merkel, alors qu'en réalité, la réunification, c'est grâce au fait que Gorbatchev a laissé faire et que Kohl, finalement, a adopté les bonnes positions. Et c'est grâce à Schröder qui a redonné la compétitivité à l'Allemagne. Mme Merkel a été une géniale tacticienne, mais sur le plan vision à long terme, stratégique, politique, etc., elle n'a pas apporté grand-chose, sauf la question que je citais tout à l'heure et qui est encore sans réponse. Est-ce qu'il y a des signes d'évolution? Attention à ne pas les surinterpréter. Schröder n'est plus là. D'autre part, même quand il y a des cas absolument incontestables, menaces djihadistes, islamistes, ou si on veut, sur le Mali. Le gouvernement malien appelle à l'aide. Tous les gouvernements voisins africains, quoi qu'ils pensent de tout ça, appellent à l'aide. Le Conseil de sécurité est d'accord, tout de suite. Le seul pays au monde disponible pour faire ça, jusqu'à ce qu'un jour il y ait une armée de l'ONU, c'est la France, qui a gardé institutionnel, capacité militaire, etc. La France y va. Longtemps après, les Allemands font un petit quelque chose. Difficilement. Ils fournissent un hôpital de campagne. Quand il y a des militaires allemands, ils ont l'instruction d'être désarmés. Dans le cas le plus évident, incontestable, critiquable par personne. Absolument évident. Conseil de sécurité. Les évolutions sont minuscules pour le moment. Quand les ministres de la Défense des deux pays, Mme von der Leyen et Le Drian, puis après Florence Parly, ils font des listes qui sont intéressantes, qui sont sympathiques, de ce qu'on pourrait faire mieux ensemble, rien ne va très loin en fait. Même en matière de coopération industrielle, ça prend des années, c'est horriblement compliqué, la plupart des autres préfèrent acheter américain pour les raisons que tu rappelais, etc. Donc il y a peut-être des think tanks, il y a des petits groupes en Allemagne qui disent qu'il faudrait peut-être évoluer, peut-être, mais ça reste très très fragile. Alors peut-être à nous de l'alimenter par des propositions intelligentes, mais pour moi ça va pas très loin, et l'opinion est pas du tout sur cette ligne. Et l'opinion s'accroche à l'idée qu'on n'a pas besoin en fait. On n'aura pas besoin de faire une Europe puissance, que tout ça c'est dégoûtant, c'est affreux, c'est dépassé, mais le monde étant le chaos que l'on connaît, ça n'est pas dépassé. Alors moi je suis pas du tout sûr que ça évolue rapidement, ou alors faut à un moment donné bousculer les choses. Et je voudrais citer une proposition de quelqu'un qui est assez différent, qui est plutôt sur une ligne européiste classique, qui est Giuliani, avec la Fondation Schuman. Il a proposé, à partir du traité franco-britannique de coopération en matière de défense, dit de Lancaster House, qui, Dieu merci, n'est pas lié au mécanisme européen, donc qui demeure, quelle que soit l'issue des péripéties Brexit, par rapport à ça. Il a proposé que ce soit étendu à l'Allemagne, ce traité, pour faire le début du noyau. Par rapport à ça, je trouve que c'est une idée qui demeure extrêmement intéressante et qu'à un moment donné, il faudra prendre nos responsabilités et mettre les Allemands au pied du mur. Mais à un moment donné, il faudra leur dire, vous voulez ou pas, puisque vous-même, vous craignez cette évolution. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ce qui peut bouger, ce sont les industriels. Parce qu'il y a en fait une peur commune des industriels d'être concurrencés, voire exterminés par l'industrie américaine. Donc les industriels, notamment de la défense allemand, là je parle pas des exportateurs automobiles, mais il y a des secteurs qui savent très bien, si les militaires allemands ne voient pas en dehors de l'OTAN de salut, les industriels de la défense allemand savent que s'ils ne s'allient pas avec les Français, ils seront tués en termes de concurrence par l'industrie américaine. Et donc la survie de l'industrie allemande et européenne passe quand même par des alliances européennes pour justement faire face aux défis américains. On a l'exemple malheureux qui est rappelé par l'actualité et éditoriale de Alstom et General Electric. Eh bien, il ne faudrait pas que on voit que certains pays européens continuent d'acheter des avions américains comme la Belgique récemment et non pas des avions européens. Il faut que le prochain avion de combat ne soit pas, il n'y ait pas un avion allemand d'un côté et un avion français de l'autre, mais que ce soit un avion franco-allemand voire européen si l'on veut continuer à exister en termes d'industrie. Et là, il y a peut-être effectivement des intérêts réellement communs par rapport à une volonté de tuer la concurrence de la part de l'industrie américaine.
La Russie, j'aimerais qu'on en dise quelques mots. On a bien compris que le découplage entre l'Europe et l'Amérique fait, me semble-t-il, alors peut-être c'est à débattre, de la Russie le premier bénéficiaire. Quel défi pour l'Europe ? Hubert Védrine, vous disiez précédemment que vous étiez pour une politique plus réaliste vis-à-vis de la Russie. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Je fais partie des gens qui considèrent que l'état actuel des relations entre l'Europe et la Russie est absurde et que les torts sont partagés. Je suis pas un pro-Poutine naïf, hein. Et je sais très bien quels sont les problèmes réels posés par la Russie à ses voisins historiquement. En même temps, c'est absurde qu'on ait aujourd'hui de plus mauvais rapports avec la Russie qu'on en avait avec l'Union soviétique pendant les 20 à 30 dernières années de la guerre froide, après que Kissinger notamment ait mis en place des mécanismes de gestion. Déjà, il y avait eu le téléphone rouge au moment après la crise de Cuba. Et il y avait pendant longtemps des sommets, des grandes négociations de limitation des armements, SALT, de réduction, START. Il y avait quelque chose, je parle même pas de la période Gorbatchev, c'est encore autre chose. En tout cas, ça a été géré beaucoup mieux, c'était moins pire. À une époque où l'URSS était beaucoup plus dangereuse que la Russie d'aujourd'hui, beaucoup plus menaçante. Et donc, même dans cette période, il s'est trouvé des réalistes très très intelligents pour dire « c'est quand même notre intérêt, en fait, d'avoir de moins mauvais rapports, ce qui a été construit, etc. » On n'a même pas ça aujourd'hui. Donc je trouve que l'engrenage, même si je comprends qu'on ait dû réagir à chaque étape exagérée des comportements russes, l'engrenage est stratégiquement idiot. Et en pratique, ça pousse la Russie du côté chinois, ce qui les terrorise, puisque je rappellerai que de l'Oural jusqu'au Vladivostok, il y a au maximum 20 millions d'habitants, quelque chose comme ça, même moins. C'est juste une banlieue d'une bourgade moyenne chinoise, quoi, en quantité d'habitants. Donc il y a une espèce de terreur russe, et notre politique, qui encore une fois peut être justifiée au jour le jour, surtout dans des époques et dans des sociétés où on mène la politique étrangère un peu à la remorque de l'opinion du jour, bon, ce qui est absurde, tout ça est idiot stratégiquement. Donc quand Macron dit « il faut réarmer la Russie en Europe », je trouve la formule bonne. Comment faire ? Voilà sur le plan de la Russie. Mais il faut le faire sans naïveté. Je pense, comme le pensait Brzezinski à la fin de sa vie, et comme le pense Kissinger, que c'était une idiotie d'agiter la menace de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qu'il fallait plutôt imaginer un statut de neutralité intelligent. En revanche, je comprends que les pays baltes, vu là où ils sont, vu le passé, vu les minorités russes, aient besoin d'une réassurance. Donc il faut pas, je ne suis pas noir et blanc sur le sujet. On a absolument besoin d'une autre politique russe. Mais on revient à notre question d'avant. Le « on », c'est qui ? Si c'est que nous, Français, ce serait bon, très bien qu'on le dise plus, d'ailleurs plus nettement. Si c'était nous avec les Allemands, ça aurait marché avec Schröder, ça. C'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut relancer ça ? C'est pas évident. Mais en tout cas, je suis pour aller dans cette direction, dans l'affaire russe. C'est pas le centre du monde, hein. La vraie question, c'est la question américano-chinoise, en réalité. Mais quand même, on peut pas le négliger.
Pascal Boniface.
Oui, effectivement, il faut ne pas confondre ce qu'est la société russe et ce qu'est la politique étrangère de la Russie. Il est évident que la Russie est un régime autoritaire, que la justice est contrôlée, donc il n'est pas question de créer une ode à Poutine et de chanter ses mérites, mais c'est de voir quel est notre intérêt. Est-ce que notre intérêt est de crisper la Russie par l'élargissement de l'OTAN, la mise en place d'un système de défense antimissile, etc., et de prendre des sanctions, parce que cette idée même de sanctions, d'ailleurs, on parle de sanctions internationales, non, ce sont des sanctions occidentales. Le reste du monde n'a pas sanctionné la Russie, et lorsque nous proclamons des sanctions à l'égard de la Russie, on confond le tout et la partie. Nous ne sommes pas le monde, nous sommes le monde occidental. Et donc on confond les choses, et pendant ce temps-là, Poutine va à Fortaleza le même jour, et il est accueilli très bien, pas seulement par la dictature chinoise, pour reprendre le discours dominant, mais également par Dilma Rousseff, par le Premier ministre indien et le président sud-africain. C'est vraiment la prophétie autoréalisatoire. À force de crisper la Russie, elle a un comportement effectivement autoritaire que l'on perçoit comme agressif, mais il faut voir les capacités. Le but de Poutine n'est pas de recréer l'Union soviétique, il est trop réaliste pour le savoir. Mais c'est vrai que on a voulu, et je reprends une expression d'Hubert, on avait espéré que après la fin de la guerre froide, les Russes deviennent européens. Ils sont restés russes. Ils sont restés russes et ça nous a surpris désagréablement. Et donc cette volonté occidentale d'imposer un peu les normes en dehors ne peut pas fonctionner. Et là on se retrouve pris dans la contradiction parce que l'Europe a suivi les Américains dont le commerce avec la Russie n'est que 1% de leur commerce international. Donc c'est pas très grave pour les Américains de décréter des sanctions à l'égard de la Russie. Mais nous, ce n'est pas le même cas. Et donc on suit aveuglément les Américains sur ces thèmes de sanctions, et ensuite on est prisonnier, et on a effectivement, alors que Poutine rêvait d'une bonne relation avec l'Union européenne, on a une Russie dont le comportement peut poser problème, mais on peut soit continuer comme cela, et c'est un peu le but de l'OTAN. L'OTAN a besoin, une fois encore, d'une Russie qui paraisse agressive pour justifier sa permanence et sa croissance, alors qu'on pourrait dire sortons de ce jeu et établissons une relation plus détendue et plus normale avec la Russie, parce qu'effectivement, il est quand même tout à fait ahurissant qu'on ait des relations plus presque crispées que du temps de la guerre froide, où il y avait des ententes, des sommets, et on savait parler de points communs.
Les États-Unis, Donald Trump à la Maison-Blanche considère globalement ses partenaires comme des handicaps, non plus comme des atouts. Je parle là des Européens. Est-ce que on voit avec le temps tout de même Donald Trump réaliser peut-être davantage l'importance de l'Europe, ou est-ce qu'on cherche absolument à se rassurer, Hubert Védrine ?
Non, ça n'a pas changé dans son esprit, hein. Trump, d'abord, c'est pas une parenthèse. C'est certainement un mouvement plus long, même après Trump. Il y a eu des signes annonciateurs aux États-Unis comme d'ailleurs en Europe, du décrochage des peuples, hein, par rapport à la mondialisation telle qu'elle a été menée, puis l'intégration européenne. Le raisonnement de Trump est en effet totalement, on va dire, égoïste, enfin, centré sur sa vision, sa base électorale, dans laquelle les évangélistes, d'ailleurs, pèsent très 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 lourd sur le plan des politiques étrangères. Il veut arrêter ce déclin relatif. Il veut engager le grand bras de fer avec la Chine, alors que l'ensemble du système en reste au bras de fer de la guerre froide avec la Russie, même si c'est disproportionné, décalé, etc., parce que c'est leur raison d'être, enfin, c'est leur mode de fonctionnement. Sur la question chinoise, il faut quand même noter que Trump, même les gens qui haïssent Trump et qui seraient contents de le voir en prison après-demain, le soutiennent sur la Chine. Ils considèrent que Kissinger était génial il y a 40 ans, que maintenant ça ne marche plus, donc il y a un certain soutien qui peut continuer après lui. Donc l'Europe, par rapport à ça, à mon avis, pour Trump, c'est rien du tout. C'est même pas son sujet. Donc je pense pas que Trump ait un projet par rapport à nous. Il a un projet par rapport à l'Allemagne. Il veut mettre fin au déséquilibre commercial gigantesque entre les États-Unis et l'Allemagne à cause des voitures. Donc il est concentré là-dessus. Je suis pas sûr qu'il ait un projet au-delà. Et à la limite, si brusquement un jour, il disait, après tout, l'OTAN, il y en a ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol de payer 70%, je vais payer maintenant 20%, il serait capable de dire, maintenant, débrouillez-vous. Et si par un miracle extraordinaire, quelques Européens disaient, chiche, on est capable de relever le défi, il dit, débrouillez-vous, les gars. C'est très paradoxal. Mais en tout cas, il n'est pas en train de retrouver un certain intérêt pour l'Europe, tel qu'on employait ce mot valise pendant très très longtemps. C'est pas le cas. Il est sur une autre trajectoire.
Pascal Boniface.
Il ne fait pas de différence entre les rivaux et les alliés. C'est quand même paradoxal qu'il ait des meilleures relations avec Kim Jong-un qu'avec Angela Merkel ou Emmanuel Macron depuis quelque temps. Donc c'est effectivement, c'est même pas l'Amérique d'abord, c'est l'Amérique seule. C'est l'Amérique et le reste n'existe pas. Et donc il prend les dossiers sans vision globale, avec seulement pour vision globale, mettre fin aux déficits commerciaux et recréer de l'emploi aux États-Unis. Et là-dessus d'ailleurs, lorsqu'il fait peur aux Européens en disant « attention, je peux quitter l'OTAN » et que, apeurés, effrayés, les Européens disent « Bon, non, ne faites surtout pas ça, on va augmenter nos dépenses militaires et donc on va acheter des armes supplémentaires aux États-Unis », eh bien, il a réussi son pari. Parce que l'objectif de 2% du PIB en matière de défense, eh bien, c'est quelque chose qui a été fixé de façon assez artificielle. Juste parce que les Américains demandent à ce qu'on dépense plus, mais dépenser plus, c'est pour acheter, parce que de nombreux pays européens n'ont pas d'industrie de défense. Et qu'ils sont poussés à acheter américains. On peut dire la même chose dans les pays du Golfe ou dans les pays asiatiques. Donc là-dessus, effectivement, il n'a pas en fait compris, et son entourage lui dit, que l'Alliance Atlantique n'existe pas pour les Européens. Au début, oui, mais même dès le départ, d'ailleurs, dès 49, si les États-Unis créent l'Alliance Atlantique et rompent avec l'isolationnisme, c'est qu'il y a un défi nouveau qui s'oppose à l'Europe, mais qui s'oppose aussi aux États-Unis. Parce qu'ils ne peuvent pas faire, voir, accepter qu'un pays seul compte, mais quelle que soit sa nature politique, et Kissinger l'a écrit, le fait que l'URSS soit communiste permettait une présentation plus facile, mais même si cela n'avait pas été, qu'un pays seul domine le continent eurasiatique était inacceptable pour les États-Unis. Et donc c'est pour cela que Trump ne comprend pas que l'Europe, il a le sentiment que l'Amérique paye pour la défense européenne. Non, l'Amérique bénéficie de l'ensemble des achats européens aux États-Unis.
Alors, sortir de la dépendance, très rapidement, Hubert Védrine, pour l'Europe, il y a une certaine urgence, en guise de conclusion.
Oui, mais j'ai fait une longue liste qui ne peut pas se traiter de façon urgente, puisque j'ai parlé d'une douzaine de puissances, d'entités, etc., par rapport auxquelles il faudrait se rendre moins dépendant. Il y a énormément de réponses. Il y a une réponse mentale, d'abord. Est-ce que c'est ça que veulent les Européens? Est-ce qu'ils veulent, d'une façon ou d'une autre, contribuer à fabriquer une puissance européenne? C'est une puissance pacifique. Est-ce qu'ils sont d'accord? Il n'y a pas de signe de ça pour le moment.
Un appel à une stratégie européenne, en tout cas, c'est cela qu'il faut.
La stratégie découlerait d'une prise de conscience. Il faut commencer par le mental, comme disent les sportifs. Il y a une question mentale. Est-ce que les Européens veulent ça? Ou est-ce qu'ils pensent qu'ils vont continuer dans leur bulle sympa, comme ça, et tant bien que mal, sans avoir à re-rentrer dans l'histoire au sens large? Je ne suis pas sûr. Je serais très heureux. Mais on n'en voit pas tout à fait les signes. Après, le reste peut en découler. Si on arrivait à convaincre les gens, on l'a dit déjà, que si on n'est pas une puissance, on va dépendre de l'ensemble des autres et on va perdre la capacité de maintenir notre civilisation à nous. Après, tout le reste en découle. La stratégie, les moyens, et puis on va affronter les adversaires, etc., etc. Ce déclic initial n'a pas encore eu lieu.
Je suis d'accord avec les 12 défis que Hubert Védrine a listés. Ils sont importants. Et simplement, le problème, c'est que faire grossir la menace russe telle que nous le faisons vient occulter ces autres défis. Parce que, en fait, on se trompe de cible. Au lieu de s'attaquer aux 11 défis, aux 12 défis que Hubert Védrine a cités, on se concentre uniquement sur la menace russe et ça occulte les autres défis sur lesquels, pour beaucoup d'entre eux, nous n'avons pas la même réponse ni les mêmes intérêts que les États-Unis.
Des sujets à débattre. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et président de Hubert Védrine Conseil, et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Son tout dernier ouvrage, Requiem pour le monde occidental, qui vient de paraître aux éditions Erol. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Marc Fichet et Nathalie Laporte. À samedi prochain.